Une prise de position est une prise de risque, peut-être encore plus dans le domaine du divertissement. Et plus on s'oppose à plus gros que soi, plus les conséquences seront grandes. Mais là où un choix personnel est souvent interprété comme louable ou au moins acceptable, l'appel à un combat commun et intransigeant peut aussi faire grincer des dents. Le principe oui, la méthode pas forcément. Enfin, ça dépend à qui on s'en prend. Salut tout le monde, je suis Manu et bienvenue dans Boisson Chaude et Tartines Fraîches, le service hebdomadaire de Tartine Ta Culture, où j'aborde une découverte récente ou un sujet d'actualité toujours autour de la musique. Et pour ce quatrième épisode, on annule tout. Le sujet du jour est lié à une info que j'ai vu passer le mois dernier. South by Southwest, l'énorme événement organisé au Texas, est visé par une vaste campagne de boycott. La raison est claire, le festival est sponsorisé par l'armée américaine, qui fournit les forces israéliennes. Alors en pleine guerre à Gaza, de nombreux artistes ont décidé par principe de renoncer à se produire dans un des plus grands événements mondiaux. Au 15 mars, d'après le magazine Kerrang, on comptait plus d'une centaine d'artistes qui avaient annulé le concert, sur une programmation de 1500 événements. Notamment, tous les membres de l'événement Music from Ireland ont décidé de renoncer. Le conflit actuel au Proche-Orient fait particulièrement écho auprès des Irlandais, qui ont leur propre vécu en termes de guerre territoriale. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier épisode de Blues from the News que j'ai réalisé sur l'héritage musical de cette longue période. Pour revenir à ce boycott, il suit un large mouvement de soutien à la cause palestinienne qui s'est intensifié ces derniers mois parmi des artistes de tous horizons et de toute notoriété. Le festival South by Southwest a dit respecter le droit des musiciens à exprimer leur point de vue, mais a mis en valeur son partenariat avec l'armée, tout en soutenant les droits de l'homme sans prendre de position. L'organisation semble trop puissante pour être perturbée par ce mouvement. Sa réputation est un peu écornée, mais la machine n'est pas vraiment en danger. Reste à voir si le festival fait le choix du statu quo l'année prochaine, et si le boycott s'intensifie. Par contre, pour celles et ceux qui ont pris position, il y a tout de suite des conséquences. South by Southwest est une date importante sur le calendrier, avec un large public et un joli cachet auquel ils vont devoir renoncer. Pas d'argent, pas de concert et pas de visibilité si ce n'est le choix d'être absent. Certains ont compensé le coup en allant se produire non loin de là, dans un contre-festival qui se tenait à Austin pour soutenir la Palestine, mais globalement, dans une économie toujours plus rude pour les artistes en tournée, ce n'est même pas un pari, c'est un sacrifice. Ça peut aussi jouer sur l'image d'un artiste, auprès du public qui va peut-être connaître ses positions sans même connaître sa musique, et auprès des professionnels qui pourraient douter du sérieux d'un groupe qui renonce à se produire à la dernière minute. Je suis tombé sur une conférence qu'a fait Roger Waters en 2022. L'ancien chanteur de Pink Floyd y a parlé de son refus de jouer en Israël qui remonte à 2007. Après avoir annulé un concert à Tel Aviv, il était revenu l'année d'après dans le pays pour constater la politique de répression des Palestiniens, en visitant notamment les territoires occupés. C'est le début d'un engagement pour les droits de l'homme qui va pousser Waters à critiquer ouvertement le gouvernement israélien et appeler au boycott du pays non-stop depuis 15 ans. Bon, l'ancien Pink Floyd a régulièrement montré qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche, avec un goût assez poivré pour la provocation. En faisant référence à l'apartheid, en citant sur scène l'iconographie nazie ou en des références à des clichés juifs pour condamner l'autoritarisme, la controverse n'est jamais loin. Quand on l'accuse d'antisémitisme, lui se sent visé par un lobby israélien. En tout cas, ses positions sans concession ne sont pas sans conséquences. Un concert à Francfort a été annulé, un autre au Bahamas, et il a même été interdit de jouer en Allemagne en mars 2023, avant que la justice locale ne tranche finalement en sa faveur. Borderline, mais pas illégal. Mais ce qui est intéressant dans sa conférence, ce sont les échanges qu'il a eus apparemment avec d'autres artistes majeurs. Entre celles et ceux qui participent au boycott, comme la chanteuse Lorde, et d'autres qui affichent des convictions humanistes mais n'ont aucun souci pour jouer en Israël, comme apparemment Madonna ou Nick Cave. Et comme souvent avec Waters, son discours sonne assez sincère mais surtout amer face à l'incapacité de certains de ses collègues à aller au bout de leurs convictions. La question du boycott est un vrai sujet de tension entre artistes, car c'est une position qui doit être défendue en masse pour avoir du poids. Un ou une artiste seule peut choisir de ne pas se produire quelque part et l'on n'en saura peut-être jamais rien. Mais le boycott est une prise de parole publique qui invite à rejoindre un combat. Et ne pas suivre ce mouvement, c'est forcément réduire un peu son impact, et donc on prend le risque de se retrouver affiché comme un opposant à la cause. Ça crée une confusion, avec par exemple des artistes engagés mais qui ne croient pas en ce mode d'action. Sur ce même sujet, en 2017, Thom Yorke, leader de Radiohead, avait réagi à cet appel au boycott alors que son groupe allait se produire à Tel Aviv. Il a affirmé à Rolling Stone que cela encourageait la discorde et pas le dialogue, et profitait aux dirigeants conservateurs. Et puis, comme beaucoup de gens, les artistes n'aiment pas qu'on leur impose quoi dire ou quoi faire, ce qui mène à des situations de blocage idéologique. Défendre la liberté d'un peuple en utilisant sa liberté d'expression peut devenir une atteinte à la liberté individuelle ? Globalement, le boycott voit son image ternie selon qui est en face. Une marque, c'est parlant, mais ça ne touche pas grand monde. Un événement, c'est déjà plus contraignant pour le public et le staff. Alors appeler et éviter tout un pays et donc son peuple, c'est une porte que beaucoup ne veulent pas emprunter. En parallèle, on peut aussi voir le cas des artistes russes qui subissent les sanctions de leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine. À l'échelle mondiale, de nombreux événements ou des structures culturelles ont stoppé net leurs relations avec eux. En 2022, Avant-Garde Lawyers, un collectif d'avocats qui s'occupe de défendre les artistes victimes de harcèlement ou de censure, a rédigé un white paper, un document qui appelle au respect des droits des artistes russes. L'ONG affiche dès les premières lignes son soutien au peuple ukrainien et condamne le gouvernement russe, pour mieux militer contre l'exclusion culturelle qui deviendrait une sorte de norme en cas de conflit.
Cela porterait un énorme coup à la liberté artistique et compromettrait le pluralisme et l'échange culturel. Dans un monde frappé par l'aliénation et la violence, l'art doit être soutenu comme une valeur universelle qui est créée, partagée et appréciée sans frontières.
Voilà, sujet un peu épais aujourd'hui. J'ai essayé d'apporter de la cohérence et de la nuance sur un sujet qui divise beaucoup. Et vous, est-ce que vous pensez que le boycott est une méthode efficace? Et à quelle échelle? N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur les réseaux, principalement par Instagram ou sur notre serveur Discord. Maintenant, on va digérer tout ça avec quelques recommandations. Mon premier conseil, c'est une newsletter. Il s'agit de La Musicale, une publication mensuelle de la médiathèque musicale de Paris. Et chaque fois, ils prennent un thème et en racontent plusieurs histoires. Le dernier parle des fanfares, à travers la tradition picarde, les mineurs britanniques et les mariages indiens. C'est une très bonne petite lecture, 3-4 minutes pour finir votre boisson. Et vous pouvez aussi retrouver les éditions précédentes directement sur leur site. Ensuite, ce sujet de Télérama qui m'a été conseillé par Fanny, sur Deezer qui fait du ménage dans son catalogue. Ça fait le lien avec l'épisode 2 que j'ai fait il y a quelques semaines sur Spotify, mais là, en plus des morceaux qui n'ont pas beaucoup, voire pas du tout d'écoute, la plateforme de streaming vise les titres générés par IA et les pistes composées juste de bruit blanc. Et il y a beaucoup de tri à faire. On finit avec une vidéo pour les curieux de sous-genres musicaux. Pat Jennington nous parle du mouvement Barber Beats, un nom que j'ignorais totalement mais qui est un style de musique synthétique, hybride et surtout tranquille, avec des visuels qui mélangent art classique et moderne. On est dans un prolongement de la Vaporwave. Oui, on est clairement dans la niche d'une niche, c'est dire le poids de l'esthétique Vaporwave cette dernière décennie, et des musiques de fond. Et c'est pas du dénigrement, le Barber Beats c'est littéralement les sons du salon de coiffure. Mais ce style en pleine émergence a aussi un souci de traçabilité. La musique est largement composée de longs samples de morceaux reconnaissables mais peu connus et non crédités, ce qui rend le tout illégal et complique l'idée d'une économie autour de ce style. Mais c'est peut-être aussi le but. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens en description. Merci d'avoir écouté cette nouvelle boisson chaude et tartines fraîches. Si vous aimez le format, pensez à le partager, à nous mettre des petits commentaires sur les différentes plateformes. Merci à tous nos soutiens sur Patreon. Votre petit cadeau arrive bientôt, je dois encore le mixer. Et pour info, le millésime numéro 8 arrive très vite, on l'enregistre dans quelques heures, je vous le servirai sans doute la semaine prochaine. Excellente journée, splendide semaine, et à mercredi prochain. Salut !